Il est exactement 8h27. Il est temps de recevoir notre invité. Aujourd'hui, dans la matinale de Radio Campus, on reçoit donc Farida Mekdoud, tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales dans la région Centre-Val-de-Loire. Alors, bonjour déjà pour commencer.
Bonjour.
Je suis aussi également avec Paul qui est resté là, qui participera aussi à l'interview.
Salut Valentin.
Salut.
Bonjour Farida.
Bonjour Paul.
Alors Farida Mekdoud, vous étiez déjà candidate en tant que tête de liste pour les dernières élections régionales. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans ?
Ce qui a changé en 5 ans, c'est que la situation sociale s'est dégradée, le chômage s'est aggravé. Quand Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, souvenez-vous, il y avait la promesse de la baisse du chômage. Et en réalité, depuis 2012, le chômage a explosé. 1 million de chômeurs de plus. Le pouvoir d'achat s'est effondré également, hein, avec le blocage des salaires, avec la précarité, avec toutes les difficultés qu'on connaît de logement. En réalité, les problèmes se sont accentués. Et les banquiers qu'on avait aidés, justement, je ne remonte pas à 5 ans, mais en 2008, hein, un peu plus de 5 ans, il y a 7 ans, lors de la crise financière, bien aujourd'hui, ils sont en train d'étrangler les États qui les ont sauvés de cette crise financière. Et un des premiers postes budgétaires de ces États, c'est rembourser les intérêts aux banques. Ils étranglent les États, mais ils étranglent aussi... La finance s'est immiscée en réalité dans toutes les activités humaines, les hôpitaux, les services publics, la poste, et dicte sa loi. Donc de ce point de vue-là, il y a une aggravation de la dictature de la finance sur la société.
En conséquence de ça, votre programme, il a évolué, il est resté le même. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Notre programme, c'est un programme politique pour les travailleurs. Ce sont des élections régionales, mais nous avons un programme pour les travailleurs de la région et de toutes les régions, car les problèmes sont identiques. Bien sûr, il y a des régions qui sont largement plus touchées que d'autres, mais globalement, qu'on soit un étudiant, un jeune, un travailleur qui cherche du travail, qui cherche finalement à avoir une indépendance financière, on est confronté à la même chose. Donc notre programme, il vise justement à pointer du doigt les vrais responsables de cette situation et à prendre à bras-le-corps le fléau du chômage, qui est le premier fléau qui touche toutes les familles, toutes les régions. Et on souhaite, nous, justement, populariser l'idée qu'il faut interdire les licenciements. Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut stopper ce fléau du chômage, il faut interdire les licenciements et répartir le travail s'il y a une baisse d'activité entre tous, sans perte de salaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on perd son emploi, quand une famille perd son emploi, quand le responsable, les parents, les travailleurs perdent leur emploi, les familles qui en dépendent, comment elles font pour payer leurs factures, remplir leur frigo ? Donc c'est très vite une dégradation et on peut se retrouver très vite démunis et à vivre des restaurants du cœur. Vous avez vu que les restaurants du cœur, je crois que c'est leur 30e campagne, hein, il me semble, ou 31e, ils n'ont jamais servi autant de repas, ils sont débordés. Donc c'est quand même un indicateur de la dégradation de la société pour les plus pauvres et du fossé grandissant qu'il y a dans la société.
On fait souvent le procès à Lutte ouvrière d'avoir un discours de politique nationale plus que d'une politique locale. Est-ce que vous pensez déjà être les seuls à faire ça ? Et est-ce que c'est le cas toujours pour cette campagne des régionales ?
C'est un procès. Vous savez, oui. Vous savez, le lendemain du 6 décembre, là, des élections, on fera un bilan national. On fait déjà des analyses nationales sur les sondages. On n'évalue pas les programmes des uns et des autres, mais on fait les rapports de force entre les partis. Donc c'est une élection nationale. Et l'occasion est donnée pour les travailleurs, la population, les classes populaires, les jeunes qui subissent ce système de s'exprimer sur la politique qui est menée, qui est une politique d'austérité. Eh bien, on aurait bien tort de se priver de se prononcer là-dessus et de se cantonner à des problèmes régionaux. Tous les autres partis font semblant d'avoir des mesures pour la région, la rendre plus attractive, la rendre plus ceci ou plus cela. Puis quand on creuse, en réalité, qu'on regarde la réalité de leur programme, ça se résume principalement à aider les entreprises. Piller les caisses publiques régionales, décliner localement ce que les gouvernements de gauche et de droite ont fait nationalement. C'est le pillage des caisses publiques, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe parce que ça veut dire des services publics dégradés. Des hôpitaux, ça veut dire l'éducation, la poste, une précarité qui se généralise et des moyens humains qui sont pas à la hauteur. Donc oui, on revendique le fait de défendre un programme national parce qu'on n'a pas un programme pour les travailleurs de Bretagne, du centre ou d'ailleurs. Il faut se défendre.
Est-ce que les attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier n'ont pas renforcé ce caractère national de l'élection régionale? Et quelle est votre réaction aussi par rapport à ces événements tragiques?
Déjà, je voudrais dire que, comme toute la population, nous avons été bouleversés et sous le choc de ces attentats qui sont commis par des barbares, qui sont les pires ennemis de l'humanité. Il n'y a rien qui peut justifier de telles tueries. Donc ça, c'est une première chose. Mais je dénonce, justement, si je me sens à l'unisson et solidaire du sentiment que la population a ressenti, justement, d'horreur. Par contre, je dénonce, la récupération, l'instrumentalisation de cette émotion par des partis politiques. Les partis politiques qui n'ont pas suspendu leur campagne, qui ont dit qu'ils faisaient, mais ils ont monopolisé la parole. Et pour faire une unité nationale derrière leur politique, derrière toute leur politique. La politique qui mène ici en France contre les classes populaires et la politique guerrière qui mène au Moyen-Orient. Et donc ça, moi, pas question d'unité nationale derrière Hollande. Quand je vois que Hollande a reçu Valls, Le Pen, tous les grands partis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a doublé la droite et l'extrême droite sur leur droite. Il a récupéré toutes les mesures sécuritaires du Front National pour les mettre en œuvre. Donc moi, je ne m'aligne pas derrière ça.
Pourtant, ça a l'air de marcher, vu qu'il aurait remonté fortement dans les sondages. Il aurait tort de ne pas le faire, du coup.
Alors, c'est pas parce que sa cote de popularité augmentera que le Parti socialiste va tirer les fruits de cette politique. Tous les sondages l'indiquent. Qui va tirer les fruits de cette politique? C'est le Front National. Je pense pas que c'est un scoop, ce que je vous annonce. Et je m'en réjouis pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti socialiste, par cette politique d'unité nationale et justement de popularisation, et puis le fait qu'il mène la politique de la droite et de l'extrême droite, eh bien, ça crédibilise le Front National. Et ça renforce le cours réactionnaire qui existe aujourd'hui dans la société.
Vous pensez que c'est réellement une récupération de la part de François Hollande, plus qu'une nécessité?
Vous savez, les mesures qui préconisent... je prendrai par exemple l'état d'urgence, l'état d'urgence qui préconise, ça ne va pas empêcher et puis sa prolongation surtout, parce que dans les premiers jours on agisse, etc., c'est une chose, mais la prolongation de l'état d'urgence, ça ne va pas empêcher les attentats, ça ne va pas empêcher les terroristes d'agir, ils ont pas, ceux qui ont été arrêtés devaient l'être, et puis qu'est-ce que ça va changer? Non. Et puis en plus, la politique guerrière, j'aurais quand même dénoncé cette politique guerrière qui... Ça fait déjà depuis 2001, après les attentats du 11 septembre à New York, là, que la guerre au terrorisme est menée par les États-Unis, puis ses alliés, la Grande-Bretagne. Et puis, sur quoi ça a débouché? Ça a renforcé les foyers terroristes. Ça a eu l'effet inverse. On a détruit l'Irak. Voilà, on a détruit l'Irak. On a créé le chaos, on a en Irak monté une population contre une autre, les sunnites contre les chiites. Ça, c'est le gouvernement, ce sont les dirigeants américains et leurs alliés qui ont soutenu ce gouvernement. Et c'est sur ce chaos, ce terreau, que l'organisation État islamique, elle a prospéré. On a voulu détruire Al-Qaïda, on a fait naître un monstre plus féroce encore. Et là, les bombardements en Syrie ne vont pas faire la différence entre les combattants, entre ces terroristes justement de l'État islamique et les populations civiles. Ils vont tomber à Raqqa et à Mossoul. Et au lieu justement, et ça va solidariser ces populations avec ces groupes, ces bombes, ça va accentuer le chaos. Et ça ne va pas faire reculer d'un pouce les troupes de l'État islamique. Ça fait déjà 2 ans qu'une coalition a été mise en place. Souvenez-vous, c'était en août 2014. Est-ce qu'elles ont reculé, les troupes de l'État islamique? Pas du tout.
J'ai une question aussi. Vous voulez faire entendre le camp de ceux qu'on n'entend pas, la voix des travailleurs? Alors, ma première question pourrait être, est-ce que vous pensez que justement cette voix n'est pas assez représentée, n'est pas assez entendue? Et est-ce que c'est le cas aussi sur ce genre de questions?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs, il faut qu'ils soient une force politique qui ait un point de vue sur tous les problèmes de la société. Déjà, tous les partis politiques ont des programmes pro-patronaux, du Parti socialiste au Front National en passant par la droite. Ils se placent du point de vue des intérêts de la bourgeoisie. Ils nous parlent des entreprises, la France. Mais derrière ces mots, France ou entreprise, c'est toujours des patrons qui parlent. Eh bien, nous, c'est l'inverse. On prétend et on veut que ce soit le camp des travailleurs qui s'exprime et que la parole politique ne soit pas monopolisée par eux. On veut que les travailleurs défendent leurs propres intérêts. Sur le chômage, j'en ai parlé, bien sûr, il faut interdire les licenciements. Sur les salaires qui sont bloqués depuis des années, les pensions de retraite, les allocations de toutes sortes pour les handicapés, le gouvernement n'a pas eu honte, hein, de vouloir s'attaquer aux pensions de retraite des veuves ou aux allocations d'handicapés, hein, tout ça pour pouvoir faire des cadeaux par milliards aux entreprises. Parce que la liste est longue, hein, des aides. Hein. Vous avez le CICE, vous avez le crédit impôt recherche, vous avez le pacte de responsabilité. Bon, toutes les exonérations qui sont faites à un titre ou à un autre sur les salaires, eh bien ça, ça pèse aujourd'hui sur la société. C'est de l'argent qui manque.
On va finir sur la voix des ouvriers. Elle s'exprime de plus en plus à l'heure actuelle, notamment par le vote extrême, le vote d'extrême droite, le Front National. De plus en plus d'ouvriers sont séduits par ce vote-là. Comment vous expliquez qu'ils en viennent à voter extrême droite ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein, d'abord, c'est pas tous les ouvriers. Une grande partie des classes populaires s'abstiennent, en réalité, se taisent. Et ça, c'est une erreur. En se taisant, justement, on renforce le camp des vainqueurs. Et finalement, ben, les abstentionnistes, ils vont renforcer le camp du Parti Socialiste, du Front National et puis de la droite, des partis justement qui pour certains ont été au pouvoir et d'autres y aspirent, mais qui sur le fond mènent la même politique. C'est vrai que Marine Le Pen, elle a eu une démagogie sociale vis-à-vis des classes populaires. Elle a même parlé pendant tout un temps de retraite à 60 ans, de salaire à 1500 euros. Mais c'était une démagogie et c'était des promesses bidons qui n'engageaient que ceux qui les croyaient. Il suffit de voir comment elle s'est comportée au moment des licenciements annoncés à Air France. Hein. Air France, qui au passage est un groupe qui fait des bénéfices et qui n'était pas gêné de licencier 2900 personnes. Hein. Eh bien, elle a fait comme Sarkozy et Hollande, elle a traité les travailleurs de voyous. Donc, Marine Le Pen prétend défendre les travailleurs français pauvres, mais on voit que quand ils se révoltent contre leur licenciement, hein, et le fait d'être jeté à la rue, eh bien, elle est du côté du patronat. Les travailleurs, elle les veut soumis.
Tu voulais intervenir,
Paul ? Déjà, juste pour rebondir sur ça, vous dites que ça concerne, enfin, c'est dû essentiellement à l'abstentionnisme. Mais je sais pas, par exemple, dans une région, je me trompe peut-être, mais dans une région ouvrière comme le Nord, on voit que le FN quand même fait des scores surprenants, quoi.
C'est pas uniquement à cause de l'abstention, hein, je suis bien d'accord.
Vous avez dit que c'est un détail.
C'est un des éléments. Je répondais au fait qu'on disait que les travailleurs votent pour Marine Le Pen, je disais qu'une grande partie s'abstiennent. Et puis, les électeurs qui votaient socialistes, ben justement, c'est quand même révélateur que dans des régions qui étaient socialistes, ben les travailleurs, ils sont écœurés. Ils sont révoltés à juste titre de la politique qui a été menée par le gouvernement, qui est une politique contre les travailleurs. Ouais. Hollande est arrivé en disant « Mon ennemi, c'est la finance ». Eh bien, force est de constater qu'il a bichonné la finance.
Quand on met tous ces éléments bout à bout, la politique du gouvernement, l'abstentionnisme, la montée de l'extrême droite, est-ce que vous pensez encore que notre société peut prendre un autre chemin qui est celui, par exemple, de lutte ouvrière, mais qui est complètement opposé à celui qu'on prend à l'heure actuelle ?
Effectivement, la situation actuelle, je parlais tout à l'heure de cours réactionnaires qui s'est aggravé dans la société, où on voit que les idées réactionnaires pèsent, sont reprises, pris par les partis qui sont de gauche, eh bien, c'est plus que jamais d'actualité de défendre ces idées. La société est en train de se décomposer. Et le problème qu'il faut que la jeunesse, les travailleurs se posent, au-delà justement de cette péripétie électorale que sont les élections régionales, qui donnent le moyen de s'exprimer, eh bien, il faut qu'on se pose le problème dans quelle société on va vivre. Dans quelle société on va vivre, qui la dirige, qui la contrôle, qui prend les décisions. En tous les domaines. En réalité, les dirigeants de la planète, ils sont incapables de faire face aux problèmes fondamentaux auxquels on est confronté. Que ce soit le chômage, que ce soit les guerres qui s'étendent, que ce soit la pollution, le réchauffement climatique dont on parle beaucoup, ils gesticulent. Ils ont beau faire des COP21. COP21, ça veut dire qu'il y a eu une COP19, une COP20, une COP18. Et finalement, il n'y a jamais rien qui a été décidé parce qu'ils sont incapables de prendre des décisions contraignantes vis-à-vis de leur propre État et surtout vis-à-vis des grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs. Et je constate que l'écologie, le réchauffement climatique, c'est une manière pour les grands groupes industriels de se faire de la publicité à bon compte. Et on voit avec la fraude à grande échelle que constitue Volkswagen qu'ils s'assoient dessus.
Justement, pour parler de la société dans laquelle on va vivre ou on souhaiterait vivre, j'aimerais vous poser cette question-là. Quelles sont les propositions que vous faites, notamment en termes de culture et d'éducation ? C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous, à Radio Campus, pour la jeunesse.
Eh bien oui, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, la culture. Je pense que c'est une clé, l'éducation. Ça devrait être une priorité de permettre... pas simplement de lire et écrire.
C'est pas une priorité.
Si, c'est une priorité. C'est une priorité, la culture.
Non, mais actuellement, c'est pas une priorité.
Non, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, la culture. Vous savez, l'éducation. J'entendais les régions qui se vantent de consacrer 40% de leur budget pour l'éducation. Bon, mais quand ils parlent de ça, en réalité, ils parlent de la construction des bâtiments, des chantiers que ça constitue. Mais bien sûr, c'est important. C'est important le contexte, les murs, etc. Mais c'est pas essentiel. Le plus important, c'est les moyens humains. C'est dans quelles conditions on travaille. Je peux vous dire que moi, je suis enseignante dans un lycée. Eh ben, pour pouvoir travailler en petits groupes, quand on a des classes de 32 élèves ou plus, avec des élèves qui ont des difficultés, eh bien, c'est très difficile. Eh bien, il faut qu'on se batte chaque année. Je peux vous dire que dans mon lycée, chaque année, on est mobilisé pour obtenir des maigres dédoublements. Et là, on est toujours mobilisé pour obtenir un poste supplémentaire, un poste entier, de CPE, et c'est pas gagné. On a dû faire grève, et on est toujours mobilisé sur ce sujet. Donc oui, c'est pas, on constate que c'est pas une priorité, parce que travailler dans de bonnes conditions, c'est jamais acquis. Donc l'éducation, moi je serais pour qu'on mette les moyens maximum. La santé, l'éducation, c'est même pas en termes de coûts, et on aurait les moyens, parce qu'aujourd'hui les entreprises, elles font des bénéfices énormes. Les grands groupes du CAC 40, là, c'est pas un scoop. Pour le premier semestre 2015, ils annoncent plus de 30 milliards de bénéfices. 30 milliards de dividendes versés aux actionnaires, pardon. Donc cet argent, il permettrait de faire des choses. Et non seulement ils ont ces 30 milliards, mais en plus, ils reçoivent des aides des collectivités locales, des aides de l'État, des aides de toutes sortes, soi-disant pour créer des emplois, et c'est l'inverse qui se passe. Je peux vous citer des tas d'entreprises où les chèques, en ce moment, ils tombent, au titre du CICE, et les entreprises ne sont pas gênées de licencier, de supprimer les emplois d'intérimaires.
Vous pensez à quelles entreprises, justement ? Des entreprises présentes dans la région centre ?
Oui, par exemple, je pense à Hutchinson, je pense qui a supprimé 90 emplois à Midi, et qui a reçu de l'argent au titre du CICE. Je pense à Famar, tout en réalité. La Poste, une entreprise publique, La Poste, qui a reçu des centaines de millions au titre du CICE, et à Fleury-les-Aubrais, La Poste à Fleury, par exemple, eh bien 40% des facteurs sont précaires, et les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. C'est ça, le quotidien. Et aujourd'hui, les facteurs, ils sont obligés de faire leur tournée en deux fois, et ils commencent le matin, ils terminent tard dans la journée. Et ils changent tous les jours, et leurs conditions de travail sont dégradées.
On va parler un petit peu de votre liste. Qu'est-ce qui vous accompagne ? Vous n'êtes pas toute seule à vous présenter. Qui est à vos côtés pour cette campagne électorale ?
Non, cette liste, elle est composée de personnes, enfin d'hommes et de femmes qui appartiennent au monde du travail, qui sont retraités, actifs, dans le public, dans le privé, qui recherchent du travail. Donc notre campagne, elle repose sur des militants, des sympathisants qui ont envie de faire entendre leur voix, qui ont envie d'en faire entendre leur camp.
Une grande partie était déjà présente lors des dernières élections, c'est ça ?
Une partie, et puis il y a eu de nouvelles personnes qui ont souhaité nous rejoindre.
Toujours avec une parité homme-femme ?
Ah, toujours. Ouais. C'est quelque chose, de toute manière, il n'y a pas eu besoin de loi pour qu'on l'applique, parce que pour nous, c'est très important, justement. C'est symbolique, la condition des femmes, elle n'est jamais acquise.
Alors, j'ai une question, quand je vous entends parler, je me demande pourquoi Lutte Ouvrière continue d'agir seule. Les scores que vous réalisez aux élections ne vous permettent pas de peser réellement sur les décisions, alors que vous pourriez partager certaines notions, certaines idées avec d'autres partis de gauche.
Vous pensez à quel parti ?
Je pensais à Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, les partis qui sont à gauche du Parti Socialiste, on va dire.
Alors les partis le Front de Gauche, c'est vrai qu'il se démarque actuellement du gouvernement, c'est vrai qu'il peut dénoncer certains aspects que nous dénonçons. Mais il est sur un tout autre terrain. Le Front de Gauche, à la différence de Lutte Ouvrière, il dit pas que pour changer notre sort, les élections ne suffiront pas. Il dit pas que notre sort, il dépend pas des urnes. Il dit votez pour nous, votez pour des bons élus, et on va œuvrer. Et on va peser dans les conseils régionaux et peser sur le gouvernement. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, on ne peut pas peser sur lui. Le gouvernement, il a un cap. Valls, Hollande, Macron, ils sont délibérément du côté de la bourgeoisie. Ils sont délibérément du côté des plus riches. C'est toute la politique qu'ils ont menée et puis qu'ils annoncent. La démolition du code du travail, la taxe sur les retraites complémentaires, la taxe sur les 35 heures, tout ça, c'est vraiment une guerre sociale. Ils sont les agents de la guerre sociale contre les travailleurs. Vous savez, ceux qui ont le vrai pouvoir dans la société aujourd'hui, on ne vote pas pour eux. On ne les voit pas. Ils sont à la tête des grands groupes. Dans les conseils d'administration, ce sont les actionnaires. Et c'est eux, une fois que les élections sont passées, qui prennent leur téléphone et qui appellent le gouvernement, qui dit « Oh, ben, vous savez, franchement, ce code du travail... c'est trop encombrant, on veut pouvoir licencier facilement, faites quelque chose. » Et puis ces 35 heures, non mais quand même 35 heures, on est au 21e siècle, faut quand même pas exagérer, il y a trop de congés, faut supprimer les RTT. Donc le patronat part à l'attaque et on veut des aides. Il y a une guerre sociale et le gouvernement, de quel côté il est, de droite ou de gauche, ou si c'est demain, c'est le Front National, ce sera encore pire, ils sont toujours du côté des patrons. Et ils nous font croire qu'en défendant les intérêts des patrons, ils défendent les intérêts des travailleurs. Et ça, c'est une duperie. Et c'est pour ça que, justement, nous, ce qu'on dit, c'est que notre sort ne dépendra pas des urnes. Il faudra des mobilisations amples, puissantes, profondes, qui remettent en cause cette dictature. Et les mesures qu'on défend, comme l'interdiction des licenciements, comme l'augmentation des salaires, elles doivent absolument s'accompagner d'une autre mesure qui s'appelle la levée de la loi sur le secret commercial et bancaire, derrière laquelle s'abritent tous les grands groupes. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez Volkswagen. Combien d'ingénieurs, combien de techniciens étaient au courant de cette fraude à grande échelle qu'ils ont pratiquée sur les moteurs diesel? Qui a pu le dire? Non, parce qu'aujourd'hui, si on dénonce quelque chose, on perd son emploi et on peut même risquer la prison. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et puis au-delà, justement, de ces mesures-là, nous, on se présente pour défendre des perspectives communistes. C'est important. Tout à l'heure, on disait dans quel avenir on a, dans quelle société on va vivre. Mais nous, on pense qu'il ne faut pas que la... Il ne faut pas laisser cette société aux mains des dirigeants des grands groupes industriels et financiers qui sont en train de nous emmener dans le mur sur tous les plans. Il faudra que tôt ou tard, justement, on renverse ce capitalisme. C'est le sens de notre présence aussi.
Alors, si j'ai bien compris, si vous ne pouvez pas être élu et que vous ne voulez pas faire pression ou peser sur le gouvernement qui est en place, est-ce que vous pensez que des manifestations populaires suffiront à faire changer les choses, comme vous me l'expliquiez?
Si on peut, on souhaite être élu, hein, ça j'ai pas dit, mais en tout cas, on veut pas être élu en diluant notre programme avec des alliances qui remettent pas en cause, qui désignent pas justement les vrais responsables de la situation. Bon. Et puis on dit pas aux travailleurs que les élections, c'est ce qui va changer la vie. Les élections, ça sert à s'exprimer, mais jamais à se défendre. Ça, faut le savoir.
Alors, du coup, par exemple, si vous n'êtes pas présent au second tour, vous ne donnerez pas de consigne de vote?
Alors... si je ne suis pas présente au deuxième tour, est-ce que je donnerai des consignes de vote? C'est au premier tour que le camp des travailleurs pourra s'exprimer. Au deuxième tour, ben, vous savez, il y aura plus de choix. Ce sera que des politiques qui sont assez proches les unes des autres.
Pour finir, j'aimerais parler avec vous de l'abstention. On l'a évoqué tout à l'heure. Oui. C'est une question que je pose évidemment à tous les candidats. Quelle est votre solution pour lutter contre l'abstention? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent et qui hésitent à aller voter ou qui se disent déjà je n'irai pas voter?
Eh bien moi j'ai envie de dire aux travailleurs, aux jeunes qui s'abstiennent parce qu'ils sont écœurés, parce qu'ils se disent anti-système par exemple, ben j'ai envie de leur dire cette attitude c'est une attitude de passivité. Et en votant pour les listes de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, ils peuvent transformer leur écœurement et leur passivité en un vote de conscience et de combativité. Parce que oui, c'est vrai, pour que les choses changent, il faudra autre chose qu'une élection. On en a eu des élections, on en a eu des alternances. Et force est de constater que notre situation ne s'est pas améliorée. Je reviens sur la première question que vous m'avez posée. Donc voilà ce que j'ai envie de leur dire.
Donc je rappelle, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu.
Je voulais aussi quand même dénoncer l'état d'urgence qui aujourd'hui sert... à interdire des manifestations. Là, en ce moment, c'est la COP21, et on voit que l'état d'urgence, on veut que ce soit uniquement les dirigeants du monde qui s'expriment, et quand des manifestants s'expriment, eh ben, on voit qu'on les réprime.
Oui, on avait évoqué aussi, parce que j'ai passé l'interview de Charles Fournier, on avait évoqué effectivement ces cas de d'assignation à résidence de militants écologistes ou d'interdiction de manifestations qui lui semblaient disproportionnées. C'est aussi votre cas, du coup?
Ah ben oui, je suis contre. Je suis contre. Et, c'est justement, l'unité nationale, c'est pour faire taire toute opposition, toute contestation politique, toute voix dissidente. Donc, moi, je suis pour la levée de cet état d'urgence.
Oui, tu veux intervenir avant qu'on finisse l'émission ? On a encore un peu de temps, il n'y a pas de souci.
D'accord. Moi, j'avais une question. Tout d'abord, dans ces temps, vous parlez un peu de... Et qu'il faudrait un peu combattre, enfin, comment dire. Est-ce que pour vous, le plus important en ce moment, dans ces temps difficiles où on voit que malheureusement le Front National gagne beaucoup de voix, est-ce que pour l'instant, avant de rentrer un peu comme ça en conflit entre, avec les travailleurs, est-ce que d'abord il ne serait pas important d'aller voter pour contrer l'évolution du FN, tout d'abord dans un premier temps, et ensuite reparler de conflits entre actionnaires, travailleurs, etc.
Je crois que c'est un peu lié. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait des années, hein, qu'il n'y a pas eu de lutte ample et profonde et massive des travailleurs, que la société recule et que le courant actionnaire recule. Quand tu as empêché le Front National de passer en votant pour la droite, par exemple, cas de figure, hein, dans le Nord ou dans le Sud, moi, je ne pense pas que la droite, ça va être un rempart à l'extrême droite.
Non, pas un rempart, mais est-ce que c'est pas mieux, disons, de voter droite ou gauche, mais voter contre le FN dans un premier temps?
Moi, je ne pense pas que c'est voter contre le Front National, justement.
De voter tout court?
Non. Je pense qu'au deuxième tour, penser qu'on va faire un rempart au Front National en votant pour la Estrosi dans le Sud, par exemple, hein, qui peut-être demain s'alliera avec l'extrême droite, puis en tout cas, sur plein de choses, ils vont se mettre d'accord et puis ils se reprennent les idées les uns les autres. Non, je pense pas que c'est une solution. Par contre, que la combativité et la conscience des travailleurs renaissent et qu'on montre du doigt les vrais responsables de la situation, qui sont pas les boucs émissaires que désigne le Front National, parce que le Front National désigne comme bouc émissaire, ben oui, les travailleurs immigrés, les musulmans, etc. Bon, ben oui, ça c'est important. Parce que quand les travailleurs luttent, qu'ils soient français, immigrés, dans le combat, on ne leur demande pas s'ils ont de papier. Et quand on est en lutte, on a besoin de tous. Et c'est ça qui compte.
Pour revenir à ce que vous disiez, et pour finir, est-ce que vous ne pensez pas que les ex-UMP et les membres du Parti Socialiste jouent avec le feu en essayant de faire monter le FN pour gagner les élections, que ce soit les élections intermédiaires ou les élections présidentielles ?
Peut-être qu'ils jouent. En tout cas, ça leur pose pas de problème, en tout cas depuis dans leurs idées. Et on voit qu'il y a cette unité nationale. Elle révèle qu'ils ont des programmes semblables sur le plan économique et sur le plan politique. Eh bien, on voit qu'Hollande, il n'est pas gêné de reprendre le discours de l'extrême droite. Donc je pense qu'il y a une partie de l'électorat du Parti Socialiste, j'espère, qui est en désaccord avec ça, en tout cas.
Bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Farida Mekdoud. Je rappelle que vous êtes tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales dans la région Centre-Val-de-Loire. Merci d'être venu à notre micro.
Merci de m'avoir reçu.